à vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Resident Evil Village. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. On aura ensuite une petite news jeux vidéo avec le jeu Hyrule Warriors, l'ère du fléau. On aura une petite news technologie avec une intelligence artificielle qui transforme les signaux cérébraux de l'écriture manuscrite en texte. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le jeu Resident Evil Village ou Biohazado Village en japonais. Donc c'est un jeu vidéo de tir à la première personne de type survival horror qui est jouable en solo et en multijoueur. Il a été développé et édité par Capcom, réalisé par Morimasa Sato, produit par Masachika Kawata, Peter Fabiano et Tsuyoshi Kanda, avec la musique que vous entendez de Shusaku Uchiyama. Le jeu est sorti le 7 mai 2021 sur Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Il constitue le 12e épisode majeur de la série Resident Evil, donc se déroulant quelques années après Resident Evil 7 Biohazard qui était sorti en 2017. Le jeu met en scène Ethan Winters, sa femme Mia et Chris Redfield, le héros légendaire de la série Resident Evil. Le joueur incarne donc un Ethan désemparé et brisé qui se retrouve confronté à des monstruosités dans un village, d'où le nom. Le jeu est classé PEGI 18 et il obtient une note de 16 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 7 sur 10 de la part de Gamekult. Entendez-vous au loin les cloches qui sonnent le glas de la vie paisible d'Ethan Winters? Dans les allées fumantes d'un village reculé, théâtre des événements du nouveau Resident Evil, Capcom garde la vue subjective avec pour objectif de surprendre par un univers empruntant à la fantasy plutôt qu'au slasher surnaturel. Adieu les Molded et la famille de psychopathes hantant la Louisiane, bienvenue au loup-garou mené par une meute de vicieux gourous. Mais sur les bancs de l'église, les doutes se propagent. Est-ce que ce virage vers les contrées d'une Europe de l'Est ravagée par l'occultisme tient plus de la bénédiction que de la malédiction? Donc depuis quelques mois, de sombres présages animent les échanges ayant lieu sur la toile. Ainsi, la série des Resident Evil serait artistiquement à l'agonie, perdue dans un grand n'importe quoi scénaristique, et forcée de reprendre les codes d'Outlast pour exister. Mais ce serait oublier que Capcom a fait de la résurrection des morts son fonds de commerce. Confortée par des ventes au beau fixe, la société japonaise fait une nouvelle fois confiance aux yeux d'Ethan Winters pour montrer l'horreur d'une épopée qui s'ouvre sur un conte, donc celui du village des ombres, narré par Mia à sa fille Rosemary. Contrairement à la jeune mère munie de son livre, le couple Winters a du mal à tourner la page. Les tragiques événements intervenus en Louisiane en 2017 sont encore dans les mémoires, et le déménagement des époux vers l'Europe de l'Est n'a pas suffi à effacer des esprits l'épisode terrorisant de Dulvey. C'est un Ethan papa-poule que l'on découvre lors des premiers instants de Resident Evil Village. L'ancienne victime puis bourreau des Bakers s'occupe de sa petite Rose et s'apprête à déguster une bonne soupe locale quand un personnage bien connu du casting interrompt cette tranche de vie. En quelques secondes, la vie d'Ethan bascule de nouveau. Donc après la capture de sa femme dans le précédent épisode, c'est désormais la chair de sa chair qui se fait kidnapper par un groupe d'illuminés vivant reclus au sein d'un mystérieux village. De quoi attiser chez notre héros une flamme vengeresse de tous les diables. Donc à l'instar des nombreux autres épisodes de la saga, il est indispensable de comprendre rapidement les mécaniques du jeu pour espérer survivre à la première heure de l'aventure. Plongé dans la peau d'un Ethan Winters en mauvaise posture, le joueur doit composer avec le gameplay orienté action de cet opus. Il n'a d'autre choix que de se servir des éléments disséminés dans son environnement pour ralentir ses nombreux adversaires, qu'il s'agisse de barils explosifs à faire sauter, de sacs de farine sur lesquels tirer pour créer un nuage déstabilisant, ou d'armoire à glisser contre les portes. Donc soyons clairs, à l'exception de rares séquences où le joueur se retrouve encerclé, se barricader est rarement mis à l'honneur. Il tient plus de l'hommage à Resident Evil 4 que d'une réelle volonté de mettre en valeur cet élément dans les manières de survivre. Et les ressemblances avec le quatrième volet de la série ne s'arrêtent pas là. Outre le côté village européen damné qui sert de terrain de jeu, un marchand ambulant est de la partie et propose cette fois-ci d'acheter directement des munitions. Donc sa boutique met également à notre disposition des remèdes, des plats qui apportent des effets permanents, ainsi que diverses améliorations pour les armes, comme l'inventaire moyennant finances ou ingrédients spéciaux. Pratique pour affronter les dangers dans de meilleures conditions. L'inventaire, puisque je l'évoquais, rappelle forcément celui de Leon S. Kennedy, avec ce système de cases à combler précisément utilisé dans de multiples hack and slash. Il est à noter que les objets obligatoires à la progression, tels que les clés ou encore les éléments d'artisanat, ne prennent aucun bloc. Ils occupent en fait une rubrique dédiée à la capacité illimitée. Un choix de game design qui renforce l'accessibilité de cet épisode auprès d'un public qui ne serait pas disposé à faire des allers-retours réguliers pour se rendre à des coffres, qui sont désormais absents de l'aventure. Donc attention cependant, un objet retiré de la valise par manque de place disparaît dans les limbes. Il n'est pas laissé au sol comme cela se faisait dans Resident Evil 0, qui s'était risqué lui aussi à supprimer ses grosses malles interconnectées. Donc en ne forçant pas le joueur à se soucier de la place que prennent les objets de quête ou les éléments liés à la fabrication, le message de Capcom est clair. Resident Evil Village insiste sur l'importance des armes, des munitions et des remèdes, les seuls items à devoir être organisés précautionneusement dans la valise du héros. Et des pétoirs, il y en a des tas. Du simple pistolet semi-automatique au puissant fusil à pompe, en passant par la mitraillette et le lance-grenade, les amateurs apprécieront un arsenal certes classique, mais toujours efficace. Le petit plus de Village vient de la disponibilité d'un fusil sniper qui prouve son efficacité contre les ennemis volants ou les lycans posés sur les toits. Donc en effet, le level design assez ouvert du bourg et le fait que la plupart des ennemis existent dans le monde plutôt que d'apparaître soudainement rendent l'arme de précision grandement utile. Pour le reste, en situation de combat, rien ne bouge drastiquement. Il faut toujours viser la tête ou le point faible pour faire un maximum de dégâts, parer avec une gâchette si les ennuis ne peuvent être évités et fuir lorsque cela est possible. Par rapport à Resident Evil 7, les affrontements de Village se révèlent un tantinet plus intéressants grâce à des adversaires de types différents plus nombreux, bien que finalement proches de ceux déjà rencontrés par le passé. Les monstres humanoïdes peuvent par ailleurs être désarmés avec une balle bien placée, tandis que des variants mieux équipés apparaissent au fil du périple afin d'éviter de laisser le joueur dans sa zone de confort, si tant est qu'elle existe. Maladroitement comparé à Outlast, ce nouveau Resident Evil tient surtout du FPS horrifique. Dans Village, seule une séquence autorise le joueur à se cacher dans des armoires vides sur les 10 heures de jeu qui composent l'épopée. Et si la fuite est encouragée, elle n'est pas nécessaire à la progression, pas plus que l'infiltration. Une nouvelle fois, le jeu alterne les passages d'action et de pure angoisse, bien que la balance penche ostensiblement du côté de la poudre, plus que de la peur. Disposant d'un contenu généreux, d'un rythme soutenu et de situations variées, Village est un parc d'attractions de l'affreux, avec son grand 8 qui a des montées parfois trop hautes. Quelques combats de boss et parties de niveau tirent un peu trop en longueur. L'absence de réalité virtuelle se fait quant à elle douloureusement sentir, et une personne ayant connu les déboires d'Ethan en Louisiane avec un PSVR fixé sur la tête déambulera dans les rues du village comme s'il s'agissait d'un vulgaire parcours de santé. Donc il y a trois modes de difficulté qui sont disponibles au lancement du jeu, le mode facile, le mode standard et le mode hardcore. Et il y a aussi un quatrième mode de jeu qui est intitulé le village des ombres et qui est réservé aux possesseurs de la version deluxe de Resident Evil Village, donc si vous avez payé un petit peu plus. Le jeu est donc relativement simple en standard mais quand même assez compliqué en hardcore, d'où le nom. Donc la touche charme de ce Resident Evil repose principalement sur son ambiance gothique et son univers issu d'un conte ayant mal tourné. Ici, le merveilleux, le fantastique et l'horreur se côtoient telle une sainte trinité des enfers. Les intérieurs décrépits rappellent les natures mortes, tandis que les paysages visités font penser à ceux du film Abandonné de Nacho Cerda. Certains panoramas sont à tomber et feront la joie des photographes du sordide. Le travail de recherche effectué sur le style européen rural, avec les chaises blanches en plastique qui défigurent les jardins ou le carrelage jaunâtre posé au mur des cuisines, est un véritable atout pour l'immersion. De plus, un effort a été fait sur la narration environnementale, alors que les divers documents se lisent aisément, grâce à un nombre restreint de pages à consulter. Les rares trésors secrets à dénicher dans des grottes plus ou moins cachées, ainsi que le bestiaire plutôt inhabituel avec ses gargouilles, loups-garous et autres vampires, donnerait presque l'impression de se balader dans un Skyrim horrifique, ce qui est loin d'être déplaisant. Sauf qu'ici, le curseur est dirigé vers le storytelling, au point où même le monde hub oblige un certain ordre dans les boss à éliminer. Donc, je n'en dirai pas plus sur l'histoire ni sur les moments marquants de l'épopée, mais sachez que Resident Evil Village dispose de séquences savoureuses. Que vous tentiez l'expérience sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ou Xbox Series, le Real Engine affiche un rendu globalement impressionnant. Les visages sont expressifs, les textures sont très détaillées et les animations sont convaincantes sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Le jeu reste fluide même quand le ray tracing est activé, ce qui en fait un mode tout à fait envisageable pour découvrir les mystères qui rôdent dans les entrailles de ce village maudit. Donc je l'évoquais tout à l'heure, Resident Evil Village tire son épingle du jeu grâce à son ambiance originale, à des affrontements plus intéressants et à des passages surprenants. Néanmoins, on ne peut cacher sa déception face à sa structure qui se révèle peu ou prou la même que celle de son prédécesseur. Donc nous retrouvons un monde hub à l'intérieur duquel se trouvent quatre chemins principaux menant vers autant de boss à liquider. Car oui, si le sous-titre de ce Resident Evil est Village et non pas Castle, c'est pour la simple et bonne raison que le château de Dimitrescu n'est qu'une courte étape de l'aventure. Ethan passe plus de temps à crapahuter dans les paysages dévastés du bourg paumé que sur les carrelages luxueux du château. Donc là aussi, on a un début de jeu plus intimiste, et là aussi, le final fait plus parler la poudre que la peur. Les couloirs métalliques du niveau final donneraient presque l'impression de revivre les événements de Doom 3, ce qui est assez troublant et divisera sûrement les amateurs de la série. Donc une fois l'aventure principale terminée, un magasin fera son apparition et proposera tout un tas de suppléments à acheter contre des points spéciaux, avec à l'intérieur de quoi débloquer des armes, des munitions illimitées, des concepts art, des modèles 3D qui sont utilisés dans le jeu pour les divers monstres et protagonistes, ou encore le nouveau mode mercenaire. Donc en croquant à la fois le 4e et le 7e volet de la série pour étancher sa soif de référence, Resident Evil Village n'apporte pas beaucoup de sang frais à son organisme. Il n'a ni l'aspect révolutionnaire de Resident Evil 4, ni l'effet de surprise de Resident Evil 7. On apprécie de découvrir les nombreux hommages disséminés ça et là, à l'image d'une énigme s'exécutant sur un piano, mais on déplore la surexploitation de quelques poncifs. L'indéboulonnable séquence où le joueur perd toutes ses armes et de la partie, de même que l'habituel passage où le héros se fait poursuivre par un monstre qu'il ne peut pas tuer. Voilà, ça c'est toujours les trucs les pires dans les jeux. Il n'échappe pas non plus aux révélations pressenties depuis le début, ni aux méchants stéréotypés aux lignes de dialogue entendues et réentendues. Enfin, le soft n'évite pas les détails cocasses. Quoi qu'il en soit, la marque de fabrique de Capcom éructera certains, des éléments qui ne gâchent pas foncièrement l'expérience, mais qui atténuent un brin l'enthousiasme. Le scénario, s'il part dans tous les sens, se suit quant à lui, heureusement, avec plaisir. Donc pour résumer les points positifs, on a une très bonne ambiance, un jeu généreux et varié dans son contenu, avec la pluralité des armes, des situations, etc. Un jeu aussi joli que fluide sur Next Gen, une aire de jeu légèrement plus ouverte, sans que cela ne dilue la narration, quelques passages surprenants, des combats un peu plus intéressants que ceux de Resident Evil 7. Et pour les points négatifs, contrairement à son prédécesseur, le jeu est amputé de la réalité virtuelle, la structure qui est presque identique à celle de Resident Evil 7, de la redite dans certaines séquences, des clichés et des invraisemblances, et la balance peur-action qui penche donc en faveur de la poudre. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une chanson extraite de l'OST du jeu Resident Evil Village, c'est Yearning for Dark Shadows, interprété par Brian D'Oliveira et Aga Ujma, et on reviendra juste après.
Look at you.
Donc, c'était la chanson Yearning for Dark Shadows de Brian D'Oliveira et Aga Ujma, une chanson extraite de l'OST du jeu Resident Evil Village. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5, toutes plateformes confondues, on a en 5ème place Resident Evil Village sur Xbox Series, un jeu de Capcom. En 4ème place, c'est Super Mario 3D World plus Bowser's Fury sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 3ème place, c'est New Pokémon Snap sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 2ème place, on a Resident Evil Village sur PS4. Et en première place, c'est Resident Evil Village sur PS5. Le top 3 PS5, donc on a en troisième place Resident Evil Village, l'édition collector. En deuxième place, c'est Returnal. Et en première place, Resident Evil Village. Le top 3 pour la Xbox Series X, on a en troisième place Assassin's Creed Valhalla. En deuxième place, Resident Evil Village, l'édition collector. Et en première place, Resident Evil Village. Le top 3 pour la PS4, on a en 3ème place Resident Evil Village, l'édition collector. En 2ème place, c'est FIFA 21. Et en 1ère place, Resident Evil Village. Vous l'aurez compris, il est partout. Le top 3 pour la Xbox One, on a en 3ème place, j'allais dire partout, sauf sur Xbox One du coup, puisqu'on a en 3ème place GTA 5, l'édition premium. En 2ème place, Call of Duty Black Ops Cold War. Et en 1ère place, FIFA 21. Le top 3 sur Nintendo Switch, on a en 3ème place donc Mario Kart 8 Deluxe. En 2ème place, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Et en 1ère place, New Pokémon Snap. Le top 3 pour la Nintendo 3DS, on a en 3ème place Super Mario 3D Land Select. En 2ème place, Mario Kart 7. Et en 1ère place, Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo Select. Le dernier top, c'est le top 3 PC avec en 3ème place Cyberpunk 2077. En deuxième place, les Sims 4, l'édition standard, et en première place, Microsoft Flight Simulator. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Sorti le 20 novembre 2020, Hyrule Warriors, l'ère du fléau, permet aux joueurs de retrouver l'univers de Breath of the Wild par l'intermédiaire d'un mousseau. Quelques semaines plus tard, Koei Tecmo annonçait un pass d'extension, dont les premiers éléments arriveront la semaine prochaine. Donc vendu 19,99€, ce pass d'extension recevra sa première vague de contenu en juin, puis une seconde en novembre. Au programme, on trouve un choix de personnages étendus, de nouvelles armes, de nouveaux niveaux, des compétences en plus, ainsi que des défis supplémentaires et des ennemis inédits. Mais dès le 28 mai, les joueurs qui auront précommandé le Season Pass pourront mettre la main sur une nouvelle tenue et une nouvelle arme pour Link, que dévoile donc aujourd'hui Koei Tecmo. Il s'agit d'un prototype d'armure archéonique et d'un prototype d'épée archéonique. Dans le même temps, le titre se met à jour et passe en version 1.1.0. Donc il s'agit d'une petite mise à jour qui permet notamment aux joueurs d'acheter le Season Pass directement depuis le jeu. Le reste concerne les joueurs hispanophones et germanophones, pour qui la narration a été ajustée sur certaines parties du récit. Si la technique aux fraises endockées a pu rebuter un certain nombre de joueurs, ça n'a tout de même pas empêché Hyrule Warriors, l'ère du fléau, d'atteindre les 3,7 millions d'exemplaires vendus au 31 mars 2021. Voilà. On passe maintenant à la news technologie. Donc, des chercheurs américains ont conçu un réseau neuronal artificiel capable d'interpréter les signaux cérébraux d'une personne imaginant qu'elle écrit avec un stylo et de les convertir ensuite en texte à une vitesse sans précédent. Donc, jusqu'à présent, les records de frappe ou de navigation au curseur établis pour ce type d'interface cerveau-ordinateur avait impliqué un système de suivi de la tête ou des yeux, se révélant particulièrement encombrant pour l'utilisateur. Dans le cadre de travaux présentés dans la revue Nature, Jamie Anderson et ses collègues de l'université de Stanford sont parvenus à résoudre ce problème en implantant deux petits réseaux de capteurs dans le cerveau d'un homme de 65 ans, victime d'une lésion de la moelle épinière en 2007 qui l'a laissé tétraplégique. Chaque réseau de capteurs était en mesure de détecter les signaux d'une centaine de neurones, soit une fraction de quelques 100 milliards de cellules nerveuses que compte le cerveau humain. Ainsi, lorsque l'homme imaginait écrire des lettres et des mots sur un morceau de papier, les signaux étaient transmis à un réseau neuronal artificiel. Donc, ces capteurs ne ciblent pas des neurones spécifiques, étant donné que des milliers ou millions d'entre eux peuvent être impliqués dans le mouvement de la main, explique Krishna Shenoy, la co-auteure de l'étude. Les implants surveillent environ 200 cellules nerveuses, ce qui offre suffisamment d'indices pour que le réseau neuronal artificiel puisse interpréter de façon fiable les signaux cérébraux. Habituellement, les réseaux neuronaux sont formés à partir de plusieurs exemples de données qui, dans ce cas, se résumeraient à l'enregistrement d'un signal cérébral pendant l'écriture d'un certain caractère. Donc, bien qu'une telle approche s'avère efficace lorsque de grands ensembles de données existent déjà ou sont fournis par des systèmes automatisés, générer de telles archives aurait ici nécessité que le sujet pense à écrire des milliers de caractères. Donc afin d'accélérer les choses, l'équipe a enregistré des exemples de signaux émis par le cerveau de l'homme pendant qu'il écrivait certaines lettres et a ensuite généré des copies supplémentaires en y ajoutant un bruit aléatoire afin de construire un ensemble de données composites. Cependant, une telle approche implique que le modèle créé ne soit pas transposable à une autre personne, étant donné que le réseau neuronal n'est formé qu'aux données provenant d'un seul individu, avec des capteurs placés à un endroit spécifique. Donc, grâce à ce système, l'homme a pu taper 90 caractères par minute, contre une quarantaine seulement pour le précédent record réalisé à l'aide d'un système de suivi classique, se rapprochant ainsi de la moyenne des personnes de son âge qui utilisent un smartphone, fixé à 115 caractères par minute. La précision de la frappe était de 94,1%, un chiffre qui dépassait 99% lorsqu'un outil de correction automatique était utilisé. Si les interfaces cerveau-ordinateur précédentes avaient été capables d'interpréter de larges signaux, tels que ceux des mouvements du bras jusqu'à présent, celles-ci n'avaient pas été en mesure de capter ceux des mouvements fins et dextres comme l'écriture manuscrite. L'équipe espère donc s'appuyer sur ces travaux afin de créer un système de décodage neuronal de la parole destiné aux personnes en ayant perdu l'usage. Voilà. On va maintenant finir l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on a eu 3 sorties aujourd'hui vendredi 21 mai avec Knockout City sur PC, Nintendo Switch et PS4, 41 Hours sur PC et Kowloon High School Chronicle sur Nintendo Switch. Pour mardi 25 mai ensuite, on aura Biomutant sur PC, PS4 et Xbox One, King of Seas sur PC, Nintendo Switch et PS4, Race the Oblivion Afterlife sur PC et PS4 et Very Very Valet sur Nintendo Switch. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 27 mai avec Warhammer Age of Sigmar Stormground sur PC, Nintendo Switch et PS4, Oddworld Collection sur Nintendo Switch, Earth Defense Force World Brothers sur PC, Nintendo Switch et PS4, Weaving Tides sur PC et Nintendo Switch, Horse Club Adventures sur Nintendo Switch et PS4, Pekaminosa A Pixel Noir Game sur PC, Nintendo Switch et PS4, Astérix et Obélix XXL Collection sur PC, Nintendo Switch et PS4, Castle Flipper sur PC, et enfin on aura Green Phoenix qui sortira sur PC et Nintendo Switch.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour mon autre émission Asian Bubble que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h. Sinon, vous avez aussi le Facebook de l'émission Cordialement Geek, bien sûr. Donc voilà, on se quitte ce soir, maintenant, tout de suite. Du coup, vous pourrez me retrouver vendredi prochain ou lundi prochain. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.